Actu SF, les podcasts.
Bien, nous allons commencer donc cette table ronde consacrée à la science-fiction, une lecture plaisir. Et j'ai le plaisir de vous présenter donc bien trois spécialistes écrivains en fait francophones. Donc Laurence Suner au milieu, qui est une romancière suisse. Elle est l'auteur de Quantica. Merci Laurence. Une trilogie de science-fiction qui met en scène la rencontre entre des humains et une ancienne civilisation interstellaire, les bâtisseurs. Elle est également passionnée de physique quantique et d'astrophysique. Elle aime beaucoup collaborer avec des chercheurs afin de créer des mondes imaginaires réalistes tels qu'on les rencontre dans la art science-fiction. Voilà. Jean-Louis Trudel. Bonjour. Alors Jean-Louis Trudel, donc, qui est un auteur québécois. Il habite d'ailleurs aujourd'hui à Québec. Il n'a jamais cessé, en fait, depuis 1984, de se consacrer à l'écriture et bien sûr, en particulier, donc à la science-fiction. Il signe ses histoires le plus souvent en français, mais aussi en anglais à l'occasion. Il est également spécialiste de la science-fiction. Il a récolté beaucoup de prix, le prix Solaris, le prix Aurora, le prix Boréal, le grand prix de la science-fiction et du fantastique québécois. Mais il traduit aussi donc, vers l'anglais des auteurs comme Joël Champetier, Jean-Claude Degnac, Daniel Cernin et même Jules Verne. Et enfin, animateur du milieu québécois et grand connaisseur du genre, critique de longue date, il a fouillé l'histoire de la science-fiction au Canada francophone sous la forme de son petit guide de la science-fiction au Québec, qui est sorti en 2017. Voilà. Et c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur ce sujet. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un ouvrage qui est très pratique et qui vous permettrait d'avoir bon, une bonne connaissance du sujet. Et enfin, Jean-François Thomas. Jean-François Thomas, qui est suisse, n'est-ce pas, qui a d'abord exercé la profession de bibliothécaire et qui rencontre en 1972 Pierre Versin. Il découvre alors sa passion pour la science-fiction et fonde un fanzine avec un groupe d'amis futurs antérieurs. Il collabore actuellement à la revue Galaxy et en tant qu'auteur, il a publié à peu près une quinzaine de nouvelles, essentiellement dans des anthologies. Notamment Dimension Suisse, Dimension Merveilleuse Scientifique ou Dimension Sidération. Et il est également l'auteur d'une pièce radiophonique et de plusieurs nouvelles. Et enfin, il a présidé le conseil de fondation de la maison, le musée de la science-fiction pendant 10 ans. Alors, l'ASF, une lecture plaisir. Donc, ça va être, on va dire, un café littéraire vraiment fondé sur cette notion de plaisir, de joie de la lecture. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quel plaisir pour vous en tant que lecteur? En fait, là, ma première question, ce sera si vous êtes écrivain de science-fiction, c'est que vous aimez la science-fiction. Et donc, on part de quelque chose. Et donc, pour vous, eh bien, en tant que lecteur, quelles étaient finalement les œuvres qui ont provoqué du plaisir?
J'allais commencer en fait par des grands principes abstraits. J'étais en train de chercher les racines de mon plaisir de lecteur. Et j'étais en train de conclure, un peu paradoxalement, que chez moi, c'était une certaine familiarité à travers le dépaysement. C'est-à-dire que le dépaysement, en fait, que procure la science-fiction, était pour moi quelque chose de familier et que, pour moi, peut-être bizarrement, un des plaisirs du lecteur de la science-fiction, c'était de retrouver le sentiment de dépaysement. Parce que, effectivement, je suis Canadien francophone, mais qui a grandi dans une province surtout anglophone. Je suis Canadien, mais tous les 2 ans, je venais en France parce que ma mère était française. Donc, je découvrais ou j'étais exposé à une autre culture. Donc, j'avais l'habitude de ce dépaysement. Et quelque part, peut-être qu'une littérature qui n'offre pas de dépaysement m'ennuyait quelque part un peu. Et il a fallu la science-fiction pour me faire à la fois découvrir de nouvelles formes de dépaysement, formes parfois effectivement pleines d'agréments, d'aventures. Mais je pense que l'autre clé du plaisir de la lecture de la science-fiction chez moi, c'était aussi l'offre de compréhension. C'est-à-dire, très souvent, la science-fiction essaye d'expliquer pourquoi certaines choses fonctionnent comme elles fonctionnent. Et donc, c'était justement une des clés pour moi de la science-fiction, parfois d'expliquer des choses en apparence étrange, mais de montrer qu'elle n'était pas si étrange que ça. Ou parfois, effectivement, d'expliquer des choses réellement étranges et de nous procurer le plaisir d'avoir l'impression de comprendre quelque chose de très compliqué. Laurence. Sinon, tu as le tien.
Je vais celui-là. Oui, bonjour. Alors, en fait, mon plaisir de la science-fiction a commencé avant la lecture. Parce que mon père, qui voyageait à travers le monde, qui était mathématicien et tout, me racontait des histoires que j'adorais, en fait, pour que je les dessine. Donc, j'étais vraiment minuscule. Je devais avoir 6 ans ou quelque chose comme ça. Et mon père devait être fasciné. On habitait Bruxelles. Il devait être fasciné par Tintin et plus spécialement par le professeur Trifon Tournesol. Et toutes les histoires qu'il m'écrivait, en fait, c'était des histoires de science-fiction. Mais à l'époque, je ne savais pas. Il y avait toujours des explorations aux confins du monde et on découvrait des civilisations inconnues. Qui n'avait jamais été découverte par des archéologues jusqu'à présent. Donc il y avait aussi la notion d'archéologie, de découvrir des civilisations disparues, et également voyage dans l'espace, puisque à travers les bandes dessinées de Hergé, on a marché sur la Lune, etc. Mon père en faisait des sortes de transformations, et il me les faisait dessiner. Donc en fait, avant même de lire de la science-fiction, j'ai eu ça, et ça, j'adorais. À travers le cinéma aussi, puisqu'il m'emmenait faire... En fait, à 3 ans, il m'a emmené voir 2001, l'Odyssée de l'espace. J'avais 3 ans. Et il s'est dit, elle va dormir dans son coin et tout, ou alors elle va hurler dès le départ, ça va être horrible. Et en fait, j'ai regardé tout le film, il paraît que j'étais les yeux exorbités du début à la fin. Alors, je sais pas si ça a dû me frapper, je sais pas, l'imaginaire peut-être, hein, sans doute. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis ensuite, comme il y avait beaucoup de science-fiction dans ses bibliothèques, puisqu'il lisait toute la science-fiction en anglo-saxonne, puisqu'il travaille dans une boîte américaine. Donc, j'ai commencé à lire tous les classiques américains et anglais, sans savoir que c'était de la science-fiction. Hein. Je dis ça, j'aime, mais en fait, c'était de la science-fiction. Et en fait, ça s'est fait comme ça, naturellement. Et donc, du coup, j'ai pas de souvenir à un moment donné où je me suis dit, j'ai découvert la science-fiction, parce que la science-fiction a toujours été dans ma vie depuis toute petite, et je pourrais pas dire à quel moment elle est entrée plus spécifiquement dans ma vie. Donc voilà. Je cherchais sans doute aussi le merveilleux, et surtout l'étrange, enfin, la différence, en fait. Quelque chose de le plus bizarre possible, je le trouvais dans la science-fiction.
Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis d'une génération déjà plus ancienne. Alors, j'ai beaucoup lu de Bob Moran. Mais paradoxalement, c'est après coup que je me suis rendu compte que ceux que je préférais, ce n'étaient pas ceux où il y avait de la science-fiction, c'était ceux où il y avait des aventures, des choses comme ça. Mais plus précisément, j'avais 18 ans à l'époque. Un jour, je m'embêtais, j'avais rien à lire et j'ai acheté un bouquin à la gare. Un bouquin qui était bizarre, il y avait des gros yeux psychédéliques sur la couverture, et puis c'était un livre de Theodore Sturgeon qui s'appelait Les plus qu'humains, et je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Et puis pendant une année je ne l'ai pas lu, puis un jour que je n'avais plus rien à lire, j'ai pris ce machin là, puis je l'ai lu et puis j'ai trouvé ça très intéressant finalement. Maintenant je ne sais pas si je le relirais, ce que ça porterait, mais enfin bon, je l'ai lu. Et puis ma belle-mère, elle avait une boutique de mode. Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais en fait, des fois, j'étais à la boutique de mode avec ma future femme, puis je m'embêtais un peu dans la boutique de mode. En face, il y avait un kiosque. Et un jour, je suis allé au kiosque et j'ai vu le nom de Theodore Sturgeon sur une revue. C'était la revue Galaxy. J'ai acheté cette revue, j'ai lu la nouvelle de Sturgeon, et puis j'ai lu d'autres nouvelles. Il y avait des gens que je ne connaissais pas, Asimov et compagnie. Bref, c'est comme ça que je suis entré dans cette passion pour la science-fiction en tant que lecteur. Et puis, il y a eu un deuxième événement. À ce moment-là, c'était en 1972, il y a Pierre Versin qui a sorti l'encyclopédie de l'utopie des voyages extraordinaires et de la science-fiction. Et un jour, il a verni son livre, donc c'est un énorme pavé pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, ça fait toujours référence à mon sens. Et il était invité à la librairie Payot, qui est la plus grande librairie de Lausanne, donc Lausanne en Suisse, près au bord du lac Léman. Et puis, il était là, et il avait fait un choix de livres de science-fiction, il y en avait partout. Et je me souviens très bien, comme j'étais très timide à l'époque, j'ai tourné une heure dans cette librairie sans oser l'aborder. Et à un moment donné, je me suis dit quand même, tu n'es pas venu pour rien. Je me suis décidé, j'ai été vers Pierre Versin. Et c'était un type vraiment très chaleureux. On a parlé science-fiction pendant, je crois qu'il n'y avait plus que moi avec qui il parlait dans la librairie. Il m'a invité chez lui ensuite. Et puis ensuite, tout s'est enchaîné finalement. Et c'est comme ça que j'ai découvert finalement ma passion pour la science-fiction, mon goût pour la science-fiction en tant que lecteur. Et voilà, j'y suis toujours.
Mais merci, et puis d'évoquer aussi le souvenir de Pierre Versin, c'est, C'est assez émouvant quand même parce que il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui l'ont connu. Donc c'est voilà, ça c'est vraiment un souvenir important. Alors je voudrais que vous me disiez tous les trois, est-ce qu'il y a vraiment, alors Laurence a parlé de 2001, hein, c'était son premier, le premier film peut-être qui a voilà qui l'a marqué. Mais est-ce qu'il y a un film de science-fiction et est-ce qu'il y a un livre en particulier que vous aimez lire, relire, enfin vous voyez une image tant en termes cinématographiques littéraire qui vous pourriez citer pour le public, quelque chose qui vous a profondément marqué et qui vous fait toujours plaisir à relire.
Ah, je vais répondre avec peut-être une question de retard parce que parler du premier film ou du premier livre, moi ça me rappelle que je pense que le premier film de science-fiction que j'ai vu, c'était Rencontre du troisième type. Au cinéma avec mon père, et j'étais bien jeune à l'époque. Il y a côté découverte de la science-fiction. Moi, c'est passé par la BD dans mes souvenirs, parce qu'à un moment donné, mon père s'était abonné aux revues Tintin et Spirou à l'époque. Ouais, elles existaient toutes les deux. Et dans Spirou, il y avait les aventures de Yoko Tsuno et la rencontre des Vinéens. Et je pense que c'était dans Tintin qu'il y avait la traduction de ce que j'ai découvert être une BD espagnole de science-fiction, Les aventures de Danny Futuro. Et j'étais si jeune que, en fait, ma mère me lisait les bulles parce que moi, j'admirais les images pendant ce temps. Je ne savais pas encore lire. Ça, la science-fiction, la découverte de la science-fiction est aussi passée aux alentours de quand j'étais à peu près à la quatrième année du primaire. Ma première lecture, ça a été en anglais, un roman en anglais. Ça fut justement un roman de science-fiction. Les choix sont jamais innocents. Space Cadet de Robert Heinlein, c'est passé par là. La question, sinon, c'était... Ah oui, une œuvre que je relis. Ben non, de nos jours, je n'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Mais s'il fallait que je recommande des œuvres... Ben, il y a des œuvres quand même classées parmi les meilleures du genre, comme des grands classiques qui, je pense, méritent de le rester, comme Dune, par exemple, de Herbert. Il y a quelques années, j'ai commencé à relire Asimov. C'était en partie... On avait un festival littéraire dédié à Asimov à Québec, où j'habite. Et j'ai fait des choses sur Asimov. J'ai fait une présentation de sa carrière dans toutes les bibliothèques de la ville, ou presque. Et ce faisant, j'ai aussi relu certains de ses ouvrages. Et même si ça a vieilli, je me disais, il y avait encore quand même beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humanité. En fait, on oublie parfois l'humanité d'Asimov, mais... comme quelqu'un dont les parents étaient des immigrants, pratiquement des réfugiés, qui avaient fui, je pense qu'aujourd'hui ce serait la Biélorussie, à l'époque c'était la Russie des Tsars, à l'époque des pogroms, à l'époque de l'arrivée des communistes, avec une hostilité de tout bord, de tout côté. Cet Asimov était quelqu'un qui était bien conscient justement de la fragilité... on pourrait dire, des individus dans les sociétés où ils ne font pas partie de la majorité. Et donc, il y a des choses à redécouvrir chez Asimov qui sont pas si... qui, je pense, devraient nous parler encore aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là et puis, qui sait, peut-être qu'à la prochaine question, je répondrai à celle-ci.
Alors, pour donc les choses qui m'ont marqué... Bon, je relis jamais de romans. Enfin, ça m'a jamais arrivé. C'est un truc... Je les lis avec intensité quand ils me plaisent et je les relis pas, en fait. C'est comme ça. J'ai jamais relu un livre de ma vie, en fait. Par contre, quand j'étais enfant, toujours... enfin, mon père... c'est toujours, ça tourne toujours autour de mon père. Il y avait un ami informaticien et mes parents faisaient des soirées les uns chez les autres. Et j'adorais aller chez cet ami informaticien parce que dans ses toilettes, toutes ses toilettes étaient remplies des bandes dessinées de Valérian, Agence Spatio-Temporelle. Et puis mes parents me disaient toujours, mais tu vas tout le temps aux toilettes? Pourquoi est-ce que tu vas tout le temps aux toilettes? T'es malade, etc. En fait, jusqu'au moment où ils ont compris que je lisais les Valérians. Donc en fait, j'ai lu tous les Valérians à l'époque, ceux qui étaient sortis, il y en avait déjà un sacré nombre. Et un jour, il me dit « Ah, mais t'aimes la science-fiction, etc. » Alors, c'est la première personne qui m'a emmenée voir Alien. J'avais genre 10 ans. C'était horrible parce que j'étais beaucoup trop jeune. Et puis, il m'avait maquillée. Enfin, c'était à mourir de rire. Et il m'a dit un jour, il m'a dit « Écoute, il faut que tu lises ça. C'est pas du tout de ton âge. » Mais bon, de toute façon, je lisais des choses qui n'étaient pas de mon âge. Et il m'a donné, je devais avoir peut-être 11 ans ou 10 ans, il m'a donné « La plaie » de Nathalie Enberg. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « Après, je veux être écrivain de science-fiction. » En fait, ça m'a tellement frappé que
c'est un magnifique roman.
Voilà. Et en fait, donc ça a été bon. Je pense que je voulais déjà faire de la science-fiction avant, mais je voulais faire de la bande dessinée de science-fiction, ce que j'ai fait aussi. Mais quand j'ai lu le bouquin de Nathalie Enberg, ça m'a tellement frappé l'imagination. C'est un truc qui m'a tellement voilà, ça m'a mis dans un état. Peut-être c'est le seul bouquin de ma vie que j'ai lu deux fois. J'ai dû le relire pour être sûr. J'ai dû le lire à 11 ans, puis une fois j'ai dû le relire vers 20 ans, en me disant mais qu'est-ce qui m'a frappé dans ce bouquin ? C'est peut-être le seul et unique. Et il était déjà tellement abîmé ce bouquin, il l'avait laissé tomber dans la baignoire, donc il est déjà gros, mais il faisait genre quatre fois la taille. Et en fait, je lui ai jamais rendu. Il m'avait dit ce livre, tu le perdras jamais parce que j'y tiens beaucoup. En fait, j'ai jamais rendu.
Et Alien, alors
Alien, donc, alors pendant deux ans, je regardais sous mon lit avant de me coucher. C'était horrible, mais j'avais tapissé mes murs des posters de Giger, avec des plus horribles les uns que les autres, en fait, avec des créatures et tout. Mes parents étaient totalement horrifiés. Mais moi, j'avais peur avant, et je n'osais plus aller aux toilettes la nuit sans lampe de poche. Enfin, pendant deux ans, bien sûr, ça m'a traumatisée, mais bien sûr, ça ne m'a pas du tout enlevé l'envie d'écrire de la science-fiction. Il y a toujours un peu d'horreur dans ma science-fiction parce que j'aime bien ce côté-là. Voilà.
Ah oui, c'est bien, là, on fait de l'archéologie de Laurence.
Donc, c'est vraiment pour ça qu'il y a toujours un petit peu d'horreur dans mes bouquins de science-fiction, parce que j'ai un petit goût pour l'horreur
d'Alien.
À cause, oui, de cet informaticien, en fait. Oui.
Bah, il faut le remercier, en fait. Oui, voilà, il faut vraiment le remercier, tout à fait. Voilà. Peut-être sur la plaie de Nathalie Enberg, il a été récemment réédité, si vous voulez lire. Donc, je crois, chez La Talente, dans la collection de poches de La Talente, hein, c'est ça. Voilà, l'année dernière. Donc, c'est vraiment un très beau roman. Si vous avez l'occasion de le lire.
Du space opéra.
Ah oui, c'est vraiment un modèle.
Quoi, mais écrit d'une certaine façon, assez particulière.
Peut-être chez les Français, enfin, je veux dire, en plus de cette époque, c'est vraiment un roman tout à fait singulier à lire. Voilà, donc.
Alors, pour répondre à la question, moi, le film qui m'a marqué, bien sûr, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, quand il est sorti. Je l'ai vu plusieurs fois, effectivement. Bon, par la suite, il y a d'autres films qui sont venus. Et que j'aime bien, mais celui-là, c'était vraiment le premier avec ces images, cette lenteur, cette musique. Enfin, c'était assez formidable. Et puis, au niveau de livres, alors relire, c'est difficile parce qu'effectivement, je suis un peu comme Jean-Louis, j'ai pas tellement le temps parce qu'on lit toujours des nouvelles choses. Mais je dirais que si je relirais volontiers un livre, ce serait Hyperion de Dan Simmons. Et là, je triche un peu parce qu'en fait, moi, j'adore les nouvelles. Donc Hyperion c'est une suite de nouvelles mais ce qui me plaît particulièrement dans ce bouquin c'est qu'il y a sept personnages et chaque personnage a sa voix, chaque personnage a son aventure et ça se regroupe à la fin, il y a une raison pour laquelle ils sont ensemble, enfin je trouve ça vraiment très solide. Et puis bien entendu alors les classiques comme Asimov, comme Clark, j'ai lu pas mal de nouvelles aussi que j'aimais beaucoup. Ouais, ils restent là, ils sont puissants. Et puis alors il y a une autre chose que j'aime bien, mais je crois que Natacha aime bien aussi, c'est la littérature ancienne, c'est-à-dire la science-fiction avant qu'elle s'appelle science-fiction, le merveilleux scientifique. Il y a des choses à redécouvrir, notamment chez les auteurs français. Et je participe à cette aventure de comment ça s'appelle Rivière Blanche, dimension merveilleuse scientifique, et je trouve ça vraiment génial, quoi. Voilà.
Oui, c'est un projet où, en partant de la notion de merveilleux scientifique, donc nos auteurs contemporains écrivent des nouvelles et réécrivent en fait. Alors en usant ou pas du style qui est parfois un petit peu désuet de Maurice Renard et puis donc de tous ces auteurs donc des années en 1890 à peu près 1920. Mais c'est un beau projet, vraiment. Il y a plusieurs, on en est au troisième tome, je crois, c'est ça
hein?
Quatrième, voilà, c'est le quatrième qui est en train, hein, c'est ça.
Oui, il vient
voilà.
de sortir, le quatrième.
Tout à fait, donc c'est vraiment un très beau projet de réécriture. Voilà, alors on va passer à une question qui est peut-être un tout petit peu plus difficile. Donc en fait, moi je me suis interrogée sur cette notion de plaisir en fait. D'où venait ce plaisir de la science-fiction? Parce que ça c'est vraiment finalement un point commun entre les lecteurs et les auteurs. Et puis vous avez vu à travers ces questions que nos auteurs sont évidemment de grands lecteurs et puis des spectateurs aussi. Donc je je dirais, je réfléchirais à quel type de plaisir. Est-ce que c'est plutôt le plaisir de l'évasion, du divertissement, le plaisir de l'histoire, le plaisir lié à peut-être rencontrer des extraterrestres, vous voyez, une sorte d'exobiologie extraordinaire, et puis aussi peut-être l'exotisme des planètes. J'ai revu récemment Avatar, évidemment, avec bon, peut-être tous ses défauts, toutes ses qualités, mais on ne peut pas enlever à Cameron d'avoir quand même créé de magnifiques images, finalement, un exotisme de la science-fiction. Donc voilà, qu'est-ce que ce plaisir est lié en fait à toutes ces notions pour vous, une en particulier?
Je dirais effectivement qu'il y a plusieurs plaisirs en fonction de plusieurs critères, de plusieurs livres. Tous les auteurs ne cherchent pas à écrire le même genre de livre, ne sont pas intéressés par les mêmes choses. Alors, dans certains cas, quand je cherche un peu des lectures marquantes, il y en a eu à différents âges. Il y a eu une époque où, quand j'étais beaucoup plus jeune, tout l'univers des dragons de Dan McCaffrey, j'ai lu et relu. Parce que de nos jours, je ne relis plus, sauf cas exceptionnels, recherches, redécouvertes pour effectivement comparer les souvenirs d'aujourd'hui, les souvenirs d'autrefois et l'expérience d'aujourd'hui. Mais il y a eu une époque, je dirais jusqu'à 20-25 ans, où je relisais assez souvent, surtout certains de mes ouvrages préférés. Et dans les histoires de dragons d'Anne McCaffrey, il y avait sans doute plusieurs éléments. L'exotisme de la planète et le plaisir quelque part des combats. Il y avait le suspense parce que, si je me souviens bien, il y avait quelque part à plusieurs étapes dans ces livres-là, une menace qui pouvait effectivement menacer, qui pouvait mettre en danger l'avenir de cette société humaine. En même temps, il y avait des mystères. Et le mystère dans la science-fiction, c'est quand même quelque chose qui, je pense, retient l'attention des lecteurs si c'est bien préparé et éventuellement bien résolu. Alors, par exemple, il y avait un peu des mystères par rapport à l'origine des humains sur cette planète. Comment se faisait-il qu'ils avaient des dragons capables de voler, de se téléporter? Quelle était l'origine des fils menaçants qui tombaient? Tout cela faisait partie d'un univers, on pourrait dire, clos. Il fallait entrer dans cet univers pour s'intéresser à ces mystères, partager les affres des personnages, se passionner pour leur victoire. D'autres romans procurent d'autres plaisirs. Moi, justement, à partir d'un certain âge, ou peut-être j'ai relu moins, mais là, je suis en train de penser à des romans comme la série, la trilogie neuromantique de neuromancien de William Gibson, ou un peu plus tard, certains des romans de Werner Vinge, comme Un feu sur l'abîme. Et là, surtout dans, par exemple, les romans de cyberpunk des années 80, on est dans quelque chose d'autre. On est dans une fiction qui, pour un lecteur qui lit dans les années 80 ces livres qui sortent en même temps, alors que précédemment, disons, j'avais peut-être lu Le troupeau aveugle de Brunner, des livres qui avaient correspondu à, disons, aux années 60, mais quand moi je les ai lus, les années 60 ou 70 étaient passées. Je lisais ça plus comme une expérience d'écriture ou une expérience exotique. Mais quand on lit dans les années 80, alors qu'on a un Apple IIc à la maison, que grâce au système de télétexte de Télidon au Canada, on a accès à des débuts de réseaux informatiques. Alors là, quand on plonge et qu'on lit les pages scientifiques dans les journaux, là, quand on plonge dans l'univers de Gibson, il nous annonce un futur qui est possible et qui est presque déductible de l'univers où on habite. Et c'est quelque chose de très stimulant comme plaisir, à mon avis.
Oui, alors, comme plaisir en tant que lectrice ou auteur, en fait, c'est un peu le même, on va dire, hein, forcément, puisque j'essaie de reproduire ce que j'ai aimé à travers les lectures. Et il y a deux choses, c'est-à-dire les personnages, c'est-à-dire que depuis toujours, depuis enfant, j'ai aimé mettre en scène des personnages et j'aimais les livres où les personnages étaient forts. Donc les personnages, quand je lisais un bouquin quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire, je voulais transporter et vivre l'aventure du personnage, et exactement ce que j'essaie de reproduire quand j'écris. C'est-à-dire que à la limite, j'écris pour moi-même à la base, et pour les autres, bon, c'est bien si ça fait plaisir aux autres. Et à la base, j'aime bien vivre les aventures du personnage, des aventures extraordinaires que je ne peux absolument pas vivre dans la réalité, puisque en fait, j'ai ce goût pour la science-fiction, pour les exoplanètes, pour des univers différents, et aussi pour le vertigineux. Par exemple, c'est des livres que j'adore lire, c'est par Spin de Robert Charles Whitson, où il y a vraiment une dimension de quelque chose, on se dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe, ça nous emballe, il y a vraiment quelque chose de puissant. Et c'est ça, en fait, que je préfère lire, découvrir dans un roman, et que j'essaie de mettre en scène dans les miens. C'est vraiment ce sentiment-là. Mais avant tout, les personnages, c'est-à-dire les rendre vivants, et que je puisse m'identifier en priorité, moi, à eux, puis c'est quelque chose de vraiment très personnel dans mon cas. Et plus ils sont étranges, mieux c'est. Donc il y a vraiment un goût pour quelque chose de différent, d'étrange. Et j'aimais toujours l'étrange quand j'étais jeune, plus jeune, adolescente, enfant, etc. Et j'en suis arrivée à la science-fiction, peut-être aussi une confirmation de mon goût pour la science-fiction, en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus étrange qu'un extraterrestre, en fait? Donc au fait, je suis revenue à la science-fiction, je revenais toujours à la science-fiction, parce que je me disais, mais c'est là qu'il y a les choses les plus étranges qui peuvent se passer, pour mon, disons, de mon point de vue personnel, évidemment, hein, c'est mon goût personnel. Donc voilà, c'est... En gros, ça se recoupe.
Oui, donc finalement, ressort du mystère. Et dans Spin, il y a quand même, de Robert Charles Winson, il y a quand même un mystère finalement par rapport à ce qui entoure notre planète. Enfin, jusqu'à la fin, on reste dans ce mystère. Donc je crois que c'est un ressort fort de la science-fiction et du plaisir de la science-fiction. Ensuite, il y a les personnages. Et puis intégrer, bah oui, peut-être entrer dans un extraterrestre, montrer cette altérité extraordinaire. Et puis donc... Jean-François, peut-être autre ressort ?
Oui, alors moi je dirais ce qu'il y a de plus étrange qu'un extraterrestre, c'est un poisson des grandes profondeurs. Mais c'est... oui, alors, c'est quoi la question ? Ah oui, c'est le sense of wonder. Oui.
Non, c'est pas le sens.
Non, c'est pas ça.
C'est pas grave.
Non, mais.
Non, c'était le plaisir était lié aux exoplanètes, à l'exotisme.
Ah ouais.
Voilà. Quel type de plaisir ?
Ben, moi, je reviens un peu sur ce que disait Jean-Louis. C'est-à-dire que. Il faut entrer dans un univers quand on prend un bouquin d'un auteur et puis son univers, il est différent de celui de quelqu'un d'autre. De la même manière, quand on écrit, on crée son propre univers. Et puis, il faut s'approprier les codes de cet univers pour pouvoir apprécier l'histoire. Et je crois que c'est ça qui moi, me plaît dans la littérature de science-fiction ou de fantasy, finalement. C'est de pouvoir entrer dans un univers étrange et puis d'essayer de le comprendre. Il y a ce côté, on va dire, peut-être scientifique ou pseudo-scientifique qui consiste à comprendre un univers étrange. Et je dois dire que c'est vrai que quand je prends un bouquin de littérature générale ou littérature blanche, il finit par me tomber des mains assez rapidement parce que, bon, ça ne m'intéresse pas, l'histoire de machin qui a des problèmes avec sa copine. Enfin bref, je ne trouve pas ça drôle. En revanche, quand je suis dans un univers comme la Horde du Contrevent, pour prendre un exemple assez typé, là, vraiment, il faut s'accrocher pour essayer de suivre le récit, de le comprendre jusqu'au bout et de voir où ça débouche, quoi. Et je crois que c'est ça, c'est cette curiosité, cette envie de comprendre cet objet ou cet univers étrange, de plonger avec cet auteur dans son univers. Et puis, alors des fois c'est très plaisant, puis des fois bon, on n'y arrive pas, ça, des fois on n'arrive pas à aller au bout de la lecture de temps à autre, mais c'est pas lié à l'auteur, c'est pas forcément, c'est lié à l'histoire, je sais pas, mais c'est ça qui me plaît, moi.
Oui, Laurence, tu...
Oui, je voulais juste rajouter ce que disait Jean-François Thomas. C'est vrai que moi, ça me fait pareil avec la science-fiction. C'est-à-dire que dans les livres de science-fiction, l'auteur crée vraiment un univers. Il y a une gestion d'informations, il doit amener des informations. C'est-à-dire qu'on lit un livre qui est vraiment propre à l'auteur. C'est-à-dire, bien sûr, il peut s'inscrire dans un genre qui est la science-fiction, la fantasy, etc. Mais c'est ouvert. Et l'univers qu'il va créer, c'est son propre univers. Donc, il doit donner les codes de cet univers, amener ces informations pour que les lecteurs comprennent petit à petit dans l'univers dans lequel il se trouve, qu'il s'habitue à cet univers tout en étant surpris. Donc, c'est vrai que moi, c'est aussi ça qui m'attire dans la science-fiction, c'est-à-dire cette liberté qu'on a de créer vraiment quelque chose. Quand vous écrivez un roman historique, vous êtes dans un cadre, vous tenez à ce cadre, vous devez être crédible, etc. Et en science-fiction, on doit être crédible avec un univers concret, en fait. Donc c'est ça, très excitant en fait.
Moi, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement des univers clos, relativement lointains, comme on peut parler de celui de Dune, par exemple, où il faut entrer, accepter presque humblement les présupposés de la construction d'univers de l'auteur. Et ça peut être très différent. Mais je voulais quand même souligner aussi cette autre voie de la science-fiction qui est parfois agréable. C'est celle d'univers qui sont ouverts un peu au sens de la physique, dans le sens où ce ne sont plus des systèmes clos. Ils sont articulés à notre présent, aux évolutions de notre présent. Et quand on lit, par exemple, le cyberpunk dans les années 80, on avait l'impression d'avoir un aperçu de là où le monde s'en allait. Le monde n'est pas complètement allé dans la direction du cyberpunk. Mais bon, de nos jours, quand on télécharge un antivirus pour nous défendre des virus, quand on explore la toile, le réseau, le web, et qu'on a des interfaces graphiques, bon, qui ne sont pas encore tout à fait en 3D, mais qui sont très visuelles, le cyberpunk, à certains égards, n'était pas si loin de la réalité d'aujourd'hui. Et de la même façon, aujourd'hui, je dirais que, par exemple, il y a les fictions climatiques, et pour le meilleur et pour le pire, elles nous arriment, elles nous rattachent à des évolutions du climat et nous ouvrent des aperçus sur peut-être que sera la fin du 21e siècle. C'est ça. Et moi, je pense que ça fait partie aussi des plaisirs de la science-fiction quand on est jeune en particulier, c'est de se faire dire, on n'est pas obligé de l'accepter, mais de se faire dire ce que certaines personnes, souvent un peu plus vieilles, pensent de là où va le monde. Et tant que ce ne sont pas des prophètes en train de se livrer à des jérémiades sur le déclin inéluctable de toute chose, ça peut être intéressant.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. Depuis peu, je dirige une collection de science-fiction chez un éditeur suisse. Et puis, dans le cadre de cette collection, les choses se sont faites un peu ensemble. C'est-à-dire qu'on a créé un prix de science-fiction qui s'appelle le prix de l'ailleurs, donc qui est lié à la maison d'ailleurs, d'une part, à l'Université de Lausanne et à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Le but, c'est d'inciter des jeunes auteurs à essayer d'écrire pour voir, pour susciter des vocations, peut-être, je ne sais pas. Enfin bref, et puis cette année, on est parti sur le thème humanité numérique. On a reçu 111 textes. On en publie 10, donc c'est pas forcément évident de choisir. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, Jean-Louis, c'est qu'effectivement, la problématique de demain, comment sera l'humanité, comment est-ce qu'on va se transformer, est-ce que avec tout l'informatique, est-ce qu'elle va être en dehors ou à l'intérieur de nous, etc. Il y a beaucoup d'idées et c'est ça qui est passionnant, c'est justement de pouvoir mélanger toutes ces idées et de voir, il y en a certaines qui se réaliseront. Et puis alors, d'un autre côté, ce qui fait peut-être un peu, ce que je trouve un peu dommage, c'est peut-être que le monde d'aujourd'hui va tellement vite que la science-fiction, elle est vite rattrapée, voire dépassée. Et ça, c'est peut-être aussi plus difficile d'écrire des récits de science-fiction aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans, je ne sais pas.
Oui, c'est bon, si on théorise un tout petit peu, c'est le mur du futur. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive finalement, il n'y a plus de distance entre la réalité et puis la fiction. Et donc, c'est vrai qu'il y a certains domaines où ça devient difficile finalement d'inventer. Là, j'en discutais récemment à propos de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle a quasiment... Enfin, finalement, dans la science-fiction, il n'y a pas beaucoup... On ne reprend pas beaucoup ces idées de réalité virtuelle parce que la réalité a totalement rejoint la fiction. Alors, juste un mot sur ce que disait Jean-François Thomas tout à l'heure. À propos justement de cette... Et Laurence aussi, à propos du fait que dans un univers de science-fiction... On n'a pas toujours toutes les informations disponibles. Il faut qu'on avance dans la lecture pour comprendre l'univers dans lequel nous sommes. Et Marc Angenot, qui est un théoricien québécois, appelait ça le paradigme absent. Et un des plaisirs, je pense, aussi du texte de science-fiction, c'est ce manque d'informations qui fait qu'on avance en ayant peut-être un arrière-plan ou en ayant des éléments manquants. Et au fur et à mesure de la lecture, eh bien, il faut effectivement trouver ces éléments manquants. Et ça aussi, c'est le travail des écrivains. sur lequel nous reviendrons. Alors, autre question que je voulais vous poser, justement, est-ce que ce plaisir pour vous, moi, il me semblait lié à ce qu'on appelle le sense of wonder, c'est-à-dire cet émerveillement spécifique de la science-fiction dont nous avons parlé. Et je voulais savoir si bon, vous pourriez éventuellement nous donner une définition personnelle, justement, de ce sense of wonder, ce sens du merveilleux qu'on va retrouver dans la science-fiction et notamment dans la science-fiction américaine hein, des années 30, 40 et après, bien sûr.
Moi, j'ai envie d'être hérétique et de redéfinir le sense of wonder parce que, bon, en anglais, l'expression pourrait être légèrement polysémique et nous renvoyer peut-être à un sentiment de la réflexion et non pas seulement de l'émerveillement. C'est il y a peut-être effectivement quelque chose de cela aussi dans l'émerveillement de la science-fiction, des éléments, la façon dont justement cela suscite la réflexion. Mais je vais en rester au sens classique du sense of wonder, et là-dessus, j'aime bien le mot de Laurence, le vertigineux. Je pense que justement, une des choses que la science-fiction permet, c'est de nous placer au bord de gouffres et de nous montrer ces gouffres. Et ça peut être des gouffres dans l'espace, ça peut être des gouffres dans le temps, et ça peut être de façon un peu plus délicate, des gouffres dans la complexité. Les gouffres dans le temps... Ah, il y a une scène classique quelque part dans The Time Machine de Herbert George Wells, de H.G. Wells, où à la fin des temps, le voyageur temporel est arrivé sur la Terre où il ne reste plus de vie ou presque. Il y a peut-être une petite bête qui l'écrase sans ou pas, mais sans trop s'interroger à savoir, bon, est-ce que c'est le dernier descendant de l'humanité, ce petit crabe, pseudo-crabe qui court sur la plage? Et en même temps, il voit le soleil peut-être transformé en géante rouge, mes souvenirs sont un peu vagues là-dessus. Et on a, ben, je ne suis pas sûr que le concept même de géante rouge existait, mais il voit ça comme une grosse étoile rougeâtre, affadie, pâlie. Et là, on a effectivement une sorte de matérialisation par la description dans un roman de SF, grâce à un gadget de SF, d'un abîme du temps que les astronomes et les théoriciens de la fin du 19e siècle commençaient à entrevoir et à évoquer dans des articles. Mais là, Wells le met dans une fiction et donne des éléments scénaristiques, met un personnage au cœur de l'action, qui, je pense que ça fait partie... des vertiges du temps, et ça pourrait aussi être les vertiges du passé d'une façon ou d'une autre, lorsque des grands anciens comme chez Lovecraft ou d'autres auteurs ressurgissent et après, disons, des disparitions de 50 millions d'années, ça souligne l'insignifiance de l'existence humaine, et je ne parle pas de l'existence des individus humains, mais de l'existence de l'humanité depuis 100 ou 200 000 ans selon les paléontologues et leurs théories du moment. Il y a les vertiges de l'espace. Et il y a un roman classique de Paul Anderson, Taux Zéro, qui quelque part combine à la fois les vertiges de l'espace et les vertiges du temps, puisque tout d'un coup, en accélérant sans cesse, un vaisseau spatial finit par se rendre jusqu'à la fin de l'univers et jusqu'aux confins de l'univers. Et à la toute fin, le vaisseau va si vite qu'il traverse une galaxie en quelques secondes, avale des étoiles. Et il y a quelque part, effectivement, quelque chose de très vertigineux. Quant à la complexité, je renverrai ça à certains romans beaucoup plus rares parce que plus dangereux, plus risqué à écrire pour l'auteur. Ici, je suis en train de penser à La cinquième tête du Cerbère, par exemple, de Gene Wolfe, où on n'est pas toujours convaincu de savoir ce qui se passe. On n'est pas même convaincu de savoir si l'auteur sait ce qui se passe, mais on est convaincu d'être plongé dans une société complexe et très différente de la nôtre et qui semble obéit à des lois qu'on a l'impression que l'on pourrait deviner si seulement on avait quelques indices de plus, selon mes souvenirs, parce que ça fait longtemps. Mais voilà trois vertiges de la science-fiction qui valent la peine, je pense, pour lesquels ça vaut la peine de découvrir la science-fiction.
Oui, alors, quelque chose, par exemple, dont je pourrais parler, c'est moi qui me frappe particulièrement, c'est Sense of Wonder par rapport à la science, c'est-à-dire que l'explication, le comment du pourquoi de l'univers, de ce qui nous entoure, et comment une autre culture, une autre civilisation, une autre espèce expliquerait ça. C'est-à-dire que nous, on explique avec d'une certaine façon. Il y a bien sûr bien des façons d'expliquer ce qui nous entoure, que ce soit par la religion ou par la science, hein, par la philosophie, par bien des choses. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que ça faisait si j'étais pas humaine et que j'essaie d'expliquer ce qui m'entoure, en fait. Et ça m'a toujours fascinée. Je me dis, mais est-ce que je comprendrais les choses de la même façon? Est-ce que j'utiliserais des mathématiques ou pas? Est-ce que je chanterais à la Lune? Enfin, ça, c'est une question que je mets toujours dans mes romans. On retrouve ça dans Quantica. Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine, quoi. C'est-à-dire que comment une autre civilisation, si une autre civilisation existe quelque part dans l'univers, comment est-ce qu'elle appréhende les choses? Est-ce que forcément elle les appréhende comme nous? Moi, je pense que non. Et du coup, ça me fascine. Et d'un point de vue personnel aussi, quelque chose qui m'a toujours fascinée, qui m'a donné sense of wonder en tant qu'enfant, c'était, je me disais toujours, ça revient au même en fait. C'est que je me dis, moi je suis un être vivant sur cette terre, il y a des êtres vivants, on a tous le même ADN, etc. Qu'est-ce que ça fait d'être un autre être vivant qui est né sous un autre soleil? Pour moi, c'était quelque chose qui me dépassait totalement, de me dire, voilà, cette personne-là, elle est née sous un autre soleil en fait. Et pour moi, ça me mettait dans un état de délire total. Voilà. Et ça suffisait à me donner envie d'écrire un bouquin. Voilà. Juste cette idée-là. Quoi. C'est des idées qui me fascinent complètement. Quand le soir, par exemple, je suis sur mon balcon et je vois tous ces soleils, toutes ces étoiles, je me dis, mais pourquoi toutes ces étoiles chaudes dans ce vide froid? Mais pourquoi on ne peut pas y aller? Pourquoi elles sont si loin? Mais pourquoi? Enfin, pour moi, c'est un sense of wonder. Je me dis, mais c'est quoi le but de tout ça? C'est extraordinaire. Et pour un auteur de science-fiction, c'est juste génial. En fait, c'est sans fin. Enfin, on peut écrire des milliards de romans, en fait.
Jean-Louis parlait de gouffre, mais je crois que c'est un gouffre imaginatif,
fait.
C'est une belle image aussi. Ah. Hein. Oui,
c'est
oui,
vraiment fascinant. Et depuis toute petite, c'est ça, je regarde les étoiles, et c'est un espèce d'émoi total.
Jean-François ?
Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais j'aime bien la notion de vertige, effectivement, au niveau du sense of wonder. Le vertige, c'est ça, c'est vraiment... Oui, on est saisi par un livre, par une ambiance, par un mystère. C'est peut-être ça qui est fascinant. C'est lié aussi la science et la fiction. Enfin, le mot, il dit bien ce qu'il veut dire, science-fiction. Quoi. C'est d'essayer de réfléchir sur les éléments. Ouais. J'ai de la peine à citer un exemple ou à parler d'un livre maintenant, mais ouais.
Oui, et pour illustrer ce que vous étiez en train de dire, moi, il y a trois ouvrages qui m'ont vraiment marqué. Il y en a d'ailleurs, bien sûr, c'est la fin de La machine à explorer le temps. En fait, c'est des gros crabes, Jean-Louis, tu t'en souvenais pas, mais c'est des crabes géants. Voilà, ce sont des crabes géants, et d'ailleurs, l'explorateur du temps subit ce vertige, en fait, de la fin, qui est assez peu, en fait, exploré par les auteurs de science-fiction. Enfin, souvent, on parle d'apocalypse, mais on ne va pas finalement aller explorer la fin des temps, en fait, la fin, si vous voulez, de notre planète. Quand le soleil va se transformer en supernova. Il me semble que Brian Aldiss l'avait fait aussi dans Le Monde Vert, où en fait on a aussi une sorte de vertige. Oui. Non, c'est Le Monde Vert, c'est Brian Aldiss. Ouais, et Stapledon aussi l'avait fait. Ouais.
Oui.
Voilà, mais ouais, c'est des images qui sont assez rares, mais qui sont totalement vertigineuses, c'est-à-dire comment est-ce que nous allons, on sera peut-être plus là d'ailleurs sur la planète depuis longtemps, mais comment est-ce que finalement, comment imaginer peut-être et comment vivre cette fin du soleil. Donc ça c'est vraiment une image totalement, c'est un gouffre hein, complètement dans l'imagination. Voilà, et la dernière question que je voulais vous poser, alors là c'est plutôt, on a peut-être un petit peu déjà réfléchi, mais en tant qu'écrivain, en fait, comment créer ce plaisir pour les lecteurs? C'est-à-dire là, je voudrais que vous me donniez un exemple plus précis. Hein. Laurence en a parlé un peu, mais essayez de me donner un exemple précis dans votre création. Voilà, quelque chose qui va pour vous, qui va vous faire plaisir et qui va faire plaisir aux lecteurs, du coup, parce qu'il y a évidemment cette relation très forte. Jean-Louis?
Même si le livre n'est pas, à ma connaissance, disponible ici, il y a le roman Suprématie de Laurent McAllister qui, quelque part, a joué sur plusieurs de ses gouffres, plusieurs de ses vertiges. D'une part, on a ce qu'on appelle un amas ouvert de jeunes étoiles, donc des étoiles autour de laquelle, desquelles la vie ne s'est pas encore développée, mais ou qui justement sont devenues l'équivalent d'un nouveau lotissement de la galaxie. Il y a une vingtaine de races qui ont commencé à s'installer. Il y a une ou deux planètes un peu, presque des intruses en fait, dans l'amas ouvert qui sont relativement habitables. Au risque de révéler la fin, l'une de ces planètes va être détruite et la fin du roman, justement, c'est un personnage natif de cette planète qui se retrouve à vivre les derniers moments de la planète. Mais en même temps, en filigrane de ce roman, il y a aussi des interrogations sur les origines même de l'univers. Et là, je faisais appel à certaines théories qui jouent. Il y a encore des physiciens qui jouent encore en ce moment, 10 ans plus tard, sur est-ce qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang? Dans quelles conditions a-t-il eu lieu? Des messages auraient-ils pu être transmis sous la forme de certaines irrégularités ou fluctuations du vide initial? Tout cela, pour moi, participait dans cette partie-là de suprématie à laquelle j'ai contribué, parce qu'on a écrit ça à deux et il y avait autre chose. Mais si on parle du sense of wonder de la science-fiction, le fait même de décrire l'ama, comme on l'appelle, je ne sais pas si on a souligné à un moment donné à quel point l'ama est minuscule à l'échelle de la galaxie et pourtant il y a ces 20 races, il y a des centaines d'étoiles et sans doute plusieurs centaines de planètes. Et tout cela, en fait, c'est tout à fait un grain de poussière, mais guère plus, disons, un galet sur la plage de notre galaxie.
Alors, comment je mets le sense of wonder, c'est ça? Comment j'essaie de... C'est ça ou...
Comment tu crées, toi, quelles sont finalement... Une idée, ouais, il fait un peu chaud, hein, là, il faut... comment est-ce que tu pourrais... Quelque chose... Comment tu crées, finalement, un élément qui te fait plaisir et qui, du coup, fera plaisir au lecteur, puisqu'on compris que...
Ça, moi, j'essaie de mettre à la place de mon personnage, de vivre vraiment ce que mon personnage va ressentir face à l'élément. Et en fait, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que... Par exemple, je mets un de mes personnages, je pense à l'ouvreur des chemins, où mon héroïne Ambre, parce qu'elle se trouve enfin confrontée au dieu sombre, qui est cette créature venue d'ailleurs, donc qu'elle ne comprend pas du tout, elle qui est très scientifique, et cet être qui lui ne s'exprime pas qu'à travers la danse et la musique, on va dire, et les sensations, qui est synesthésique, qui envoie des sensations pour s'exprimer, etc. Mais en fait, le fait de mettre à la place de ce personnage, ça, j'essaie de transmettre ce qu'elle, elle a ressenti face à ce personnage étrange. Et je l'exprime comme ça. C'est comme ça que j'essaie du moins de l'exprimer. En fait. De le transmettre au lecteur, c'est ça. De le transmettre à travers le sentiment du personnage. Qu'est-ce que le personnage ressent au moment où cette expérience arrive, en fait. Et à part, c'est les thèmes aussi. Les thèmes choisis, parce que c'est des thèmes de la physique, des thèmes... de compréhension, justement, de compréhension de l'univers, de comment la matière fonctionne, des choses étranges, la physique quantique et des choses comme ça, des choses qui me plaisent moi, et j'essaie de les partager au lecteur. Il y a par exemple des choses bêtes, mais d'essayer de transmettre certaines notions, en fait, de la physique qui sont assez difficiles.
Oui, d'ailleurs, dans le titre Quantica, j'imagine que...
Pas seulement. Ça vient bien tout le monde. Alors ça, c'est mystérieux, ce titre, parce que tout le monde dit « Ah, Quantica, Quantica ». Mais en fait, il y a autre chose dedans. Si pour ceux qui ont lu jusqu'à la fin, qui ont lu l'Ouvreur des Chemins, à la fin, dernière page de l'Ouvreur des Chemins, il y a autre chose dans Quantica. Hein. Quantica, c'est à la base, c'est un... Je ne veux pas dire ce que c'est, mais évidemment, il y a un jeu de mots sur Quantica, puisque... Voilà. Mais ça, c'est seulement pour les personnes qui n'ont pas lu, parce que je ne veux pas spoiler.
Donc, il faut lire le roman.
Parce que Quantica veut dire, effectivement, ça... Bah, Quantica, ça fait référence à antiquité, à quantique, mais aussi à autre chose.
Voilà. Merci, Laurence, d'entretenir le mystère, Jean-François.
Alors, moi, je n'ai pas été aussi loin, je n'ai pas été dans l'espace, je reste plus modeste. Je prends l'exemple du roman là, pour la jeunesse qui vient de sortir. Là, j'ai, bah, c'est parti d'un objet que j'avais à la maison, puis je me dis, mais ça sert à quoi ce machin? Et puis, je ne sais pas trop quoi en faire. Puis j'ai imaginé que ça pourrait servir peut-être à ça, ou à ça, ou à ça. Puis alors, les choses se sont construites de la manière suivante. Je me suis dit, tiens, si on trouvait des objets qu'on ne sait pas à quoi ils servent, puis qui servent vraiment à quelque chose, à quoi pourraient-ils servir? Je ne sais pas pourquoi, ça me paraissait plus logique que ce soit des enfants qui trouvent des objets comme ça. Alors en fait, ils trouvent dans ce roman, les enfants, ils trouvent des objets dans une caverne quelque part, et puis ils les échangent dans la cour de récré contre des vignettes Panini, des choses comme ça. Et puis, ben, après, il se passe de drôles de choses à la maison, et puis à l'école, et puis tout le récit part comme ça. Donc l'idée, c'est ensuite d'apporter une explication, évidemment, pourquoi ces objets fonctionnent ainsi, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est. Il y a l'idée du mystère, il y a cette idée. Ouais, j'ai essayé d'intéresser le lecteur à vivre l'aventure, mais m'intéresser moi aussi comme Laurence, c'est-à-dire de dire moi, comment je ferais, comment je réagirais, qu'est-ce qui se passerait. Voilà, puis ça se construit, et puis c'est du travail, et puis voilà.
Oui, mais c'est du travail plaisir.
Oui,
hein, voilà.
Oui, tout à fait, c'est du travail
plaisir. Mais pas toujours, hein, voilà, c'est un peu le mythe. Bien, il nous reste quelques minutes, donc on va peut-être passer la parole à nos spectateurs, auditeurs. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos écrivains? Je ne sais pas si on a... Est-ce qu'on a un micro? D'accord, donc si vous voulez poser une question, on ne peut pas beaucoup... il faudra parler fort, je suis désolée, ou venir ici, je vous donnerai le micro. Donc est-ce que nous avons des questions pour nos écrivains? Ou alors, est-ce que vous êtes trop écrasé par la chaleur? On a fait le tour de la question.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la science-fiction, vous? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Ouais.
Non, parce que si vous êtes là, sur cette table ronde, c'est bien sûr que la science-fiction, vous aimez la science-fiction. Donc, est-ce que peut-être vous posez des questions sur cette lecture? Pourquoi est-ce que ça crée un plaisir en vous? Pourquoi est-ce que vous avez toujours été passionné par la science-fiction? Je crois que ça, c'est vraiment des questions importantes. Donc, je vous donne la parole, mais bon, ce n'est pas une obligation non plus. Hein. Oui, monsieur.
Alors, moi, je veux seulement dire...
Allez.
Non, je veux seulement dire que tout ce qui a été dit par nos auteurs, c'est ce qu'on ressent. Et puis, chacun a son histoire... Donc on a eu des exemples comment ils sont arrivés à la science-fiction. Et puis je pense que chacun a aussi une histoire et a décidé d'aller dans cette direction-là.
Et alors votre histoire, monsieur, qu'est-ce que c'est? Dites-nous.
Mon histoire, c'est trop compliqué.
Non, mais juste un titre peut-être ou une...
Ah, un titre, ben, c'était La Plaie. La Plaie, ouais, à la fois les fleuves noirs et à la fois la collection
Rayon Fantastique.
Et puis justement, c'est le côté Sons of Wonder, tout ce côté-là qui m'a accroché. Et surtout, ce qui est bien aussi au niveau de la science-fiction, c'est le fait qu'on prenne un élément de la réalité, hein, beaucoup d'auteurs font cela, et ensuite accentue et crée un univers autour d'un élément. Exemple l'écologie, exemple toutes les histoires actuellement, les champs virtuels, etc. Tout ça. Mais ça depuis 40 ans, les auteurs ont déjà parlé de cela, ce qui fait que je trouve que maintenant, c'est du rabâchage. Ce que font les jeunes, ils sont complètement en plein là-dedans, ils sont complètement coincés, ils ne connaissent plus la vraie réalité, j'ai l'impression aussi. Et puis pour moi, c'est ça, je trouve que c'est normal, puisque j'ai connu ça dans tous les bouquins de science-fiction. Oui. Et puis je lis en anglais, je lis en allemand, je lis en français. J'ai plusieurs aspects... De la science-fiction.
Bien. Merci, monsieur. Bien, je crois que nous allons laisser la place pour la prochaine table ronde. Merci de votre attention et bravo à nos auteurs.